sais d'où ça vient?
Ça vient du 4-5!
88.3!
Pas du campus, c'est autre chose que n'importe nawak.
La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
En 1925, à Paris, Raoul et Marguerite d'Harcourt font paraître un ouvrage intitulé « La musique des Incas et ses survivances ». Pour permettre de jouer la musique péruvienne sur des instruments européens, le couple d'Harcourt présente la musique des Incas telle qu'il l'imagine plus accessible, en la ramenant aux gammes modales déjà en circulation dans les milieux musicologiques parisiens de l'époque. 1925 est aussi l'année où un compositeur latino-américain, Julian Carrillo, dévoile la théorie du 13e son qui propose une nouvelle division des sons jusqu'à faire fabriquer des harpes, des guitares et des pianos aux proportions harmoniques inédites. Depuis 100 ans, le dialogue entre France et Amérique latine a continué, des gammes se sont échangées et à l'occasion de la première édition du festival Sono Mundo, Métaclassique installe ses micros à la Cité internationale des arts à Paris pour réunir les compositeurs Fernando Valcarcel, Juan Arroyo, Vincent Trollet et la compositrice Pia Alvaro, un panel idéal pour mener une enquête en temps réel sur les trafics de gammes qui se trament entre la capitale péruvienne Lima et la capitale française Paris, avec la complicité du critique Gilles Charlassier qui traduira les propos de certains de nos invités et qui, en fin d'émission, se chargera de formuler la question finale. Extrait d'Invention de Edgar Valcarcel. En Europe, les compositeurs qui faisaient de la musique sérielle, de la musique à 12 notes à égalité d'exposition, n'étaient pas les mêmes que ceux qui faisaient de la musique électronique. Bonjour Fernando Valcarcel.
Muchas gracias por la invitación, mon Dieu.
Votre père, Edgar, a fait les deux, de la musique sérielle et, comme on vient de l'entendre, de la musique électronique. Quand il faisait de la musique sérielle, il avait le sentiment de faire de la musique européenne.
Mon père a eu très tôt un intérêt sur ce qui se passait dans le monde musical aux États-Unis, en Europe.
Entre los profesores que tuvo,
parmi ses professeurs, il y a le belge André Sass
et plus tard
Ginastera, compositeur argentin.
Et à travers Ginastera, il connaissait à Messiaen
et à travers Ginastera et Messiaen toute une galaxie de compositeurs avant-garde européens et mondiaux. Et ceci était une porte d'entrée, une ouverture sur la musique électronique qui était la musique nouvelle.
Donc faire de la musique avec les machines voulait dire faire de la musique internationale.
Quiere decir que hacer música internacional y nueva.
Sí, pero a pesar de que tenía una mirada abierta, La imagination, no, provenía de
au-delà de la question de la musique électronique, son imaginaire venait de la musique andine, du monde andin.
On parle des Valcarcel comme d'une dynastie. Votre oncle Teodoro était compositeur, votre père, donc on vient de le citer, et Edgar. En quoi cette lignée porte une unité artistique?
Hay una unidad artística entre toda la dinastía.
Hay dos cosas. Mi tío
Teodoro,
mon père et
mon oncle,
del sur de
Edgar, sont originaires du sud du Pérou, Puno.
Et
une grande influence de la musique traditionnelle.
Pero también,
mais il y a également une influence de la musique française pour Théodore, mon oncle, la musique impressionniste, et de mon père, Edgar, de Messiaen.
Entonces, esa combinación de fuentes de inspiración, creo que es lo que les da unidad
a ellos.
Ces
deux influences, le croisement, la réunion de ces deux influences crée l'unité.
Dans la mesure où Messiaen s'est lui-même inspiré des musiques Inca, quand votre oncle Teodoro s'inspirait de la musique de Messiaen, qui s'inspirait de la musique Inca, comment ça se passait?
Continuación de influencias.
Teodoro.
Sí,
Teodoro no conoció a Messiaen, no lo conoció. Teodoro conoció a Debussy y Ravel, ¿no? La música de Debussy y Ravel. Pero
Teodoro, que était plus qui connaissait de Debussy, Ravel, a eu connaissance de la collection des musiques Inca collationnées par le couple d'Harcourt.
Y de ahí él tomó
et ces mêmes mélodies, ces mêmes
ont
constitué le fond d'inspiration, le fond pour le cycle Haraoui de Messiaen.
Ancha e a chi can vivi
Tungu Tungu de Teodoro Valcarcel, qui effectivement est mort en 1942, qui donc n'a pas connu Messiaen, mais a pu influencer pour le coup Messiaen en ayant lui-même aspiré la musique des Incas via des musicologues français qui étaient Raoul et Marguerite Darcourt. Bonjour Juan Arroyo.
Bonjour, bonjour, merci beaucoup.
Pour vous, Darcourt, ça évoque quoi?
Ah, voilà, Darcourt, tout d'abord un énigme, un désir de découvrir des choses. Moi, je suis né à Lima et quand j'ai pris connaissance de ce travail musicologique, ça m'a tout de suite interpellé. Qu'est-ce que la musique des Incas? Et bien entendu, à mon jeune âge, à l'époque, je me demandais si moi-même j'étais un Inca et si c'était ma musique que je devais chercher dans ce travail.
Et voilà. Vous ne la reconnaissiez pas?
Non, pas du tout, pas du tout. En vérité, moi, je viens de l'improvisation, je suis autodidacte et en fait, j'ai découvert tout ce travail quand j'étais à l'Université nationale de musique, assez tardivement, à 18 ans. Donc c'est là, dans les couloirs du conservatoire, de l'université en tout cas, que j'ai commencé à entendre parler de cela.
Mais alors, quand on fait l'Université des Arts à Lima à l'âge de 18 ans, on n'est pas à vouloir faire de la musique péruvienne à tout prix?
Je n'ai jamais voulu faire de la musique péruvienne. En vérité, je ne me suis jamais posé la question non plus d'être compositeur. En vérité, je n'ai jamais cherché à l'être. Je l'ai senti en moi-même toujours comme une vocation. Et donc, je n'ai pas souhaité faire une musique péruvienne. Je souhaitais simplement faire ma musique. Je ne vois pas la musique comme une recherche, thématique ou c'est quoi la composition. J'en fais simplement.
Alors, vous avez été élève de Fernando, puis en France de Jean-Yves Bosseur au conservatoire de Bordeaux. Et en arrivant au conservatoire de Paris, vous faites la remarque que vous êtes le premier compositeur péruvien à intégrer une classe de composition au CNSM. Vous avez fait cette vérification pour en faire carrément un titre de gloire ou ça a quelle valeur pour
non,
vous?
Non, c'est pas un titre de gloire. C'est plutôt le contraire en vérité. C'est pas très glorieux de dire quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose en même temps que dépoussière certaines notions que nous avons au Pérou. Quand je suis parti du Pérou, j'ai entendu d'abord que mon professeur de composition avait tenté le CNSM de Paris et qu'il n'avait pas réussi l'accès. Ensuite, je suis aussi que d'autres compositeurs par le passé et après lui ont essayé. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est d'éviter d'aller postuler pour une sorte de peur du refus et comme ça prolonger en fait la honte nationale. Mais après, c'est devenu une évidence. Moi, je ne suis pas allé au Conservatoire supérieur de Paris pour autre chose que ce ne soit pas en fait m'intégrer dans une société musicale où je puisse m'exprimer librement, simplement, voilà.
Fernando, vous dirigez l'Orchestre symphonique national de Pérou depuis 2011. Il vous importe de jouer des compositeurs péruviens, vous en créez abondamment, mais on vous doit aussi la création péruvienne de Lutoslawski, de Pederecki, de la Tourante Galila de Messiaen, de certaines symphonies de Mahler, jusqu'à Boulez. Pourquoi est-ce que c'est important de jouer la musique savante occidentale à Lima?
Música occidental a Lima.
Je
pense que le plus important dans la programmation d'un orchestre symphonique, c'est à la fois la diversité et l'actualité, et donc de donner les créations actuelles d'aujourd'hui.
M'appuyer
fondé sur la diversité, diversité large, c'est en même temps au cœur de cette diversité d'avoir un accent particulier sur la musique locale, sur la musique en tout cas du pays.
Vous avez tous les deux, Fernando et Juan, un point commun important, c'est d'avoir continué vos études au-delà des frontières du Pérou. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Amérique du Nord et pas l'Europe?
Porque en América del Norte y no en Europa como Juan.
Bueno, en realidad, tal vez porque seguí los pasos de mi padre que estudió en Nueva York.
Peut-être parce que mon père avait déjà étudié à New York et qu'il y avait un réseau de contacts, d'amitié, qui donc a facilité mon arrivée en fait sur place.
Alors que vous, Juan, vous vous êtes vraiment posé la question. Enfin, en fait, vous étiez sûr de ne pas aller aux États-Unis.
Oui, certainement. Je suis venu ici par intuition. Et on n'avait pas encore l'Internet. J'imaginais en fait un monde en dehors du Pérou idéal. Il faut dire aussi que nous, on vivait dans la terreur. Et donc, tout ce qui s'est passé en dehors de notre pays, c'était le rêve, la paix. Et donc, quand je suis parti du Pérou, je suis parti avec une intuition, mais sans savoir vraiment qu'est-ce qu'elle allait se passer. Mais je ne voulais pas aller aux États-Unis, parce que mon intuition était aussi que j'allais me trouver mieux ici. C'est une intuition, je ne peux pas l'expliquer.
L'intuition, c'est-à-dire de ne pas être à l'aise en tant que latino-américain dans la sphère nord-américaine.
Oui, il y a quelque chose de ce genre-là, mais je ne sais pas si c'est quelque chose aussi lié au fait de que depuis que je suis enfant, j'étais piqué par la francophilie, du fait d'avoir étudié dans une école française au Pérou. Avant la crise économique, ma famille a pu se permettre de m'inscrire 3 ans à l'école André Malraux. Et donc, on pouvait se payer ça. Mais après, quand on a eu la crise économique, dans les années 80, 87, voilà, j'ai dû passer dans une école coopérative de gauche, près de la maison. Mais déjà, je n'étais plus adapté, je pense, à cette école. Je me demandais où c'était les cours d'art, où est-ce qu'on faisait la peinture, à quel moment on faisait la musique, où il n'y avait pas tout ça. Et donc, il y avait un vide qui m'avait été inculqué en fait dans l'école française. Je devais avoir des cours humains, qui m'humanisent.
Pour le coup, il y avait une évidence pour vous que votre formation devait être internationale?
Non, en vérité, franchement, sortir du Pérou, c'était à l'époque encore un peu s'échapper. Parce que si bien on avait récupéré la démocratie, la chose la plus importante pour moi, c'était de trouver une société idéale pour pouvoir développer mon art. C'était, voilà, trouver une porte pour m'échapper.
Pourquoi est-ce que développer son art pour la génération d'Edgar, ça voulait dire passer par la musique sérielle, selon vous?
Génération de passer pour la musique sérielle.
Mi génération. Bueno, la musique sérielle, de alguna manera, es una matriz. Ha quedado como un modelo de búsqueda y de enseñanza del manejo del sonido. Eso es muy importante para un compositor, ¿no? Es tener esa formación porque te da oficio.
La musique sérielle fonctionnait comme un modèle avec son unité, et justement cette qualité de modèle et d'unité était très importante pour un compositeur.
Bueno, eso sí, creo que un compositor de estas generaciones tiene que abrir un poco más la paleta.
Il y avait en même temps le besoin et la nécessité pour un compositeur de ma génération d'ouvrir le champ esthétique et pour un compositeur comme moi de m'ouvrir à mon entourage, à mon entourage musical au sens large du terme.
Dans un précédent numéro de Métaclassique, en parlant du compositeur Luis de Pablo, on s'est demandé si l'attrait d'un compositeur espagnol pour le dodécaphonisme n'était pas nourri par un désir de rattraper un retard, par une espèce de sentiment forcément inapproprié de vouloir jouer à une course à la modernité qui s'était emballée ailleurs qu'en Espagne, mais d'abord peut-être en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Et alors voici ce que disait le musicologue Igor Contreras à cette question.
Pour moi, la question du rattrapage me pose un problème aussi, parce que le rattrapage aussi sanctionne un peu aussi l'immaturité. C'est-à-dire que ces compositeurs-là sont toujours en train de vouloir se rattraper.
Ou alors ils se condamnent à ce que la maturité en question ne soit pas la leur.
Oui, mais c'est aussi en montrant, c'est-à-dire en mettant l'accent de voilà, ici, j'utilise le dodécaphonisme, mais je me l'approprie d'une façon, et en disant voilà, que le dodécaphonisme n'est pas, c'est pas une technique très utilisée ou une. En Espagne, du coup, ils sont constamment en train de rappeler aussi constamment le retard. Du coup, c'est l'immaturité de leur immaturité ou leur et aussi le retard de la scène musicale espagnole. Mais aussi, je pense aussi, moi, mon problème avec le rattrapage, c'est quand c'est intériorisé par les historiens de la musique ou les historiens tout court. Parce que ça montre une ligne téléologique. C'est
Oui, mais cette téléologie, elle se construit quand on dit que le marqueur de modernité, c'est le dodécaphonisme, parce qu'ils auraient très bien pu imaginer d'autres marqueurs.
Tout à fait, oui, tout à fait. Mais la question, c'est quand on construit leur itinéraire après, dans leur biographie, qu'avec ces marqueurs-là ou ces itinéraires. Mais du coup, c'est quelque chose que maintenant est en train de changer un peu. Par exemple, on oublie toute la musique qui sont faites, par exemple, pour toute la musique des films, toute la musique scénique, des autres œuvres qui ne sont pas avant-gardistes. Ces compositeurs-là ne font pas que la musique d'avant-garde. Ils font surtout, Christopher Kraft et Luc Pablo, beaucoup de musique des films. Et par exemple, celle de Christopher Kraft est très intéressante parce qu'il fait aussi de l'expérimentation quand il fait de la musique pour des films avec des choses électroacoustiques, et Luis de Pablo aussi. Mais surtout, Luis de Pablo, il n'aime pas du tout la musique qu'il a fait, ou il n'aime pas du tout parler de sa musique.
Oui, il se dédie sur le tard, sur ce répertoire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces positionnements d'Igor Contreras sur Juan Arroyo?
Ah ben oui, je suis tout à fait d'accord. Et imiter, se mettre à jour comme un logiciel pour revendiquer son droit à existence, c'est anti-artistique. C'est totalement anti-artistique. J'ai eu heureusement la chance d'avoir des professeurs au Pérou et en France. Par exemple, là, nous avons Alain Gossin qui peut le dire très bien, et qui n'ont jamais imposé une ligne éditoriale dans l'écriture d'une pièce, qui ont plutôt vu avec bienveillance quels étaient mes objectifs personnels. Hein, mais effectivement, non, mais je trouve que c'est une erreur que voilà, effectivement, c'est pour ça que je disais au départ que pour moi, la composition, ce n'est pas un objet d'étude pour un compositeur. On ne peut pas affronter la composition comme un objet d'étude. Enfin, c'est l'expression.
Et à l'inverse, vous êtes chiche d'entendre des influences péruviennes dans la musique de Boulez?
En vérité, ça me touche parce que c'est une écoute référentielle. C'est pas que je dis chauvinistement que parce que il y a un peu de je sais pas de continuum ou d'ostinato que c'est péruvien, mais ça me parle.
C'est-à-dire par exemple la notation 10.
Oui, voilà, quelque chose comme ça. Je dis ouais, c'est ça, ça me parle. Couleur, énergie, tellurique.
Bonjour Vincent Trollé.
Bonjour.
Alors vous, c'est le contraire, c'est-à-dire vous êtes un compositeur français qui bifurquait vers la complicité avec la musique péruvienne.
Oui, c'est par inadvertance.
Par inadvertance?
Oui, je pense que jamais dans ma vie j'aurais eu une attache vers le Pérou. Je pense que comme beaucoup de Français, on ne connaît absolument pas le Pérou. Enfin, je veux dire, imaginez-vous que j'ai 44 ans. Moi, la seule, c'est assez drôle ce que je vais vous dire, mais c'était quand j'étais enfant, le premier rapport au Pérou, c'est un dessin animé que beaucoup de personnes connaissent, c'est Mystérieuse Cité d'Or. Et là, c'était un documentaire où on voyait comme ça des Mayas, des Incas, c'était tout à fait fascinant, très très bien fait. Et c'est là, je dois dire de manière objective, c'est mon premier rapport au Pérou.
Mais alors, les Mystérieuses Cités d'Or, si je comprends bien, c'est quand même beaucoup plus proche de Raoul et Marguerite d'Harcourt que de Julian Carrillo, non?
Exactement. Oui. Voilà, c'était complètement fantasmé, complètement imaginaire. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que c'est par inadvertance, il n'y avait rien d'intellectuel là-dedans.
Ce qui est curieux, c'est que c'est un aller-retour. C'est-à-dire que ce fantasme à toi, c'est mon fantasme à moi de la France ou de l'Europe. C'est-à-dire que on cherche toujours ce qu'on n'a pas. Hein. C'est quelque chose, c'est l'autre en fait, l'énigme en fait, qui nous nourrit.
Oui, qu'importe le sens dans lequel on franchit l'équateur.
Exactement.
Oui.
Après, c'est l'approche épistémologique qu'on fait justement. Vous parlez de dodécaphonisme, mais Carrillo, il a été, comment dire, signalé de compositeur imitateur de Brahms. Et justement, c'est ça le problème. C'est le moment où on analyse en fait un compositeur latino-américain en faisant la comparaison avec une esthétique européenne. Il peut le voir comme un sujet en soi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la théorie du 13e son donc de Julián Carrillo?
Oui, alors en fait, la théorie du 13e son, c'est un corpus de texte. Hein. Ce n'est pas forcément une théorie en particulier. Hein. C'est un ensemble d'écrits, d'écrits comme peut-être Schoenberg a pu l'avoir dans sa vie, sur un regard esthétique, un regard analytique sur certaines partitions, sur certaines œuvres. Mais ce qui est intéressant là-dedans, on sent bien que c'est quelqu'un qui va chercher des modèles d'organisation sonore différente. Alors on peut peut-être appeler ça la pansonorité. J'aime bien ce terme parce que ça permet comme ça de... Je trouve que c'est ça qui est moderne. Pansonorité, Wisniewski, il y a Julián Carrillo et d'autres qui ont ouvert cette voie-là. Et ce que je trouve assez... Et Varèse aussi, hein, j'oublie Varèse hein, quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà cette intuition du son. C'est-à-dire comment cette intuition du son va amener à repenser notre rapport à l'espace, à l'échelle, à la dynamique, à l'énergie.
Oui, parce que le mot de pansonorité, il est d'office multifactoriel. C'est oui, pas exactement. Que une histoire harmonique.
Et, oui. Voilà, exactement. Et ça, c'est moderne. Parce que c'est pas simplement l'harmonie qui va s'enchaîner, on va éclater l'harmonie. Non, non. Il y a une pensée globale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Carrillo, il s'inscrit dans ce mouvement qui, après la guerre, hein, enfin après la première guerre, hein, de repenser, comme Picasso, comme beaucoup d'autres, cette manière de représenter le monde. Et ça, je pense que c'est pas Carrillo, c'est un mouvement global, c'est ce que je ressens.
extrait du Preludio à colonne de Julián Carrillo. Pourquoi il s'intitule comme ça, ce morceau
Je pense que Julián Carrillo, il venait de découvrir quelque chose comme un trésor, comme la découverte d'Amérique. Et qu'il a voulu marquer le coup avec un titre qui en certaines façons aussi, fait le lien inverse de la colonisation. C'est-à-dire que je pense, après c'est assez prétentieux, mais je le pense ainsi, c'est-à-dire que Julián Carrillo, il s'est dit qu'avec sa découverte, il allait plutôt renverser en fait le poids d'influence Occident-Amérique latine, Latine-Amérique latine-Occident. La découverte était à l'inverse, c'est-à-dire qu'il allait influencer avec son travail plutôt les compositeurs occidentaux.
Vous entendez des échos de ce que l'on vient d'entendre dans des démarches très contemporaines, comme par exemple celle de Michael Levinas
ou... Tout à fait. Moi, je me dis, en fait, c'est pas exactement Michael Levinas, qui j'estime beaucoup, mais dans les deux premières mesures du Prélude à Colomb, avec ce travail de huitième, quart et trois huitièmes de ton, montant et descendant, ça donne l'impression d'avoir quand même une glissade. Parce que c'est assez fin quand même. Et cette glissade, à moi, ça m'évoque en fait la polyphonie paradoxale de Michael. Et c'est ce travail comme ça. Aussi, il y a quelque chose aussi d'effet Doppler, enfin, du son qui s'éloigne et qui est déformé par la distance justement dès qu'il écoute. Donc il y a quelque chose de phénoménologique. Il y a des choses chelsiennes, parce que tout ce prélude à Colomb, il est composé autour de la note mi. Hein, Carrillo, il était violoniste. Donc voilà, il connaissait très bien les instruments, et par l'occurrence, la note mi, première corde du violon, il s'est dit, si je veux écrire sous ce système-là, il faut quand même que mes musiciens puissent avoir des repères pour que je puisse, pour qu'ils puissent interpréter ce huitième, ce quart, ce trois huitièmes de temps. Surtout des musiciens, par exemple, en 1925, vous imaginez, voilà, c'est assez visionnaire. Et j'imagine un musicien en 1925 recevant cette partition, ça devait décoiffer un peu quand même.
Vincent Trollet, qu'est-ce que vous entendez dans ce Preludio à colonne?
Oui, alors moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai eu un échange avec Juan et on dirait du Chelsea. Vraiment, c'est... Et pourtant, Chelsea, ça arrive 40 ans après.
Enfin, excuse-moi l'interruption. Chelsea, oui. Paré, Carrillo.
Oui, enfin, peut-être c'est ça.
Parce que ça, justement, le problème épistémologique,
oui. C'est cette inversion
auquel je fais ces références. Oui. C'est-à-dire que analysons l'œuvre d'un artiste extra-occidental en faisant référence à un artiste occidental, même si il précède l'œuvre de cet artiste occidental. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais il faut quand même réfléchir à quel point nous avons une pensée coloniale dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait dans la musique.
Vous voulez dire qu'en 10 ans, on dirait du Chelsea, c'était de l'eurocentrisme, quoi.
Exactement.
Ouais.
Mais c'est malgré nous. Mais moi, même à moi, ça m'arrive.
Vous êtes aussi capable d'entendre là quelque chose de pré-colombien. Ben, là, ça inverse encore la mise en perspective ancestrale, oui.
Pré-colombien... Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le... Enfin, je regarde ça de manière peut-être occidentale, pardon, Juan.
Voilà, t'inquiète pas, les Péruviens, on est les plus chauvins du monde, hein, nous, t'inquiète pas.
mais non, voilà, dans les références historiques, c'est vrai que la découverte de l'Amérique a signifié beaucoup de drames aussi, beaucoup de pandémies. Enfin, il y a eu une sorte d'écrasement de ces peuples qui étaient avant l'arrivée des Espagnols. Et ce que je trouve assez touchant, c'est la manière dont Carrillo fait ressurgir un peu cet univers englouti. Moi, je le ressens comme ça, comme une sorte de résurgence. Évidemment, c'est une résurgence un peu fictionnelle, mais résurgence quand même.
En 1904, il y a un compositeur français qui s'appelle Jules Mouquet qui avait fait une sonate intitulée La flûte de Pan, qui était en fait pour flûte traversière. Juan, vous, quand vous travaillez la référence à la flûte de Pan, c'est pas une bonne excuse pour faire de la musique modale, c'est plutôt une très bonne excuse pour aller fouiller dans les timbres.
Non, en vérité, encore une fois, c'est de l'intuition. J'avoue quelque chose, il y a des sonorités auxquelles je ne peux pas échapper, qui m'obsèdent, mais c'est parce que ça me passionne, ces sonorités. Je les trouve tellement belles, pourquoi me priver à moi et priver aux autres de partager avec, en tout cas. Et par exemple, quand j'ai composé cette pièce intitulée Sicurien, il y a déjà 10 ans de ça, Sicuri veut dire joueur de flûte de pan. Je ne voulais pas faire une cosification ou une auto-représentation du joueur de la flûte de pan. En vérité, je ne pensais pas à autre chose qu'utiliser ma propre pratique, car j'étais en fait Sicuri. Et donc, je voyais ça tout à fait naturel de faire une pièce avec les sonorités maternelles et de même temps appeler Sicuri parce que en composant une pièce pour saxophone, en levant le bec, je retrouvais cette chose qui m'est touchée à moi. Donc voilà, c'était l'intuition méritée. Après, évidemment, c'est le point de départ, c'est la partie passionnelle. Et donc, après ce fuel, je pars pour plusieurs mois à y penser et donc à chercher des structures qui me permettent justement de créer une métaflûte de pan. C'est d'abord en fait l'expression, après c'est la technique.
Vincent, est-ce que d'approcher de près la musique péruvienne vous a amené à changer votre rapport à l'instrumentarium, et y compris aux instruments occidentaux, bien sûr?
Alors, mais ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est que je fais des séjours d'études dans le monde méditerranéen. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, je suis allé au Maroc, j'ai été aussi il y a quelques années en résidence pendant 2 mois, la Grèce. C'est pour moi. Je parle un peu le grec, vous voyez, je m'intéresse à ça profondément. La langue est le premier vecteur pour moi de connaissance d'un pays. Et à partir de là, la poésie. C'est-à-dire entendre, par exemple, on a eu un spectacle, Topographia, Pouyanissé, en grec, Pouyanissé, ça veut dire qu'ils naissent. Oui, c'est très intéressant parce que Yénissé, ça va donner français génération. Voyez, et donc ça, c'est vraiment dans mon ADN. Donc pour répondre par rapport à ce que vous dites, je n'ai pas forcément d'attache, en tout cas pas encore, avec le Pérou. Mais en tout cas, dans mon esprit, c'est très important de pouvoir intégrer, un peu comme Juan va rechercher peut-être les deux mots à travers la flûte de pan des expédients à sa musique, eh bien moi aussi, à travers d'autres cultures, d'autres langues, je fais on va dire la même démarche. Nous avons ça en commun, Juan.
Eh oui.
Vincent, si je vous confie la tâche de nous présenter Pia Alvarado, qu'est-ce que vous nous en diriez?
Alors Pia, je l'ai connue par Juan, parce que au premier abord, je ne la connaissais pas. Et deux choses à dire sur Pia. La première, c'est son engagement sur la musique contemporaine. C'est-à-dire que ce que j'apprécie beaucoup, c'est son effort, on va dire, d'aller chercher au-delà des premiers apprentissages qu'elle a pu faire à l'université ou au conservatoire, hein, d'autres horizons. Ça, c'est la première chose. Et ça, je trouve que c'est remarquable, c'est ce désir, cette curiosité et aussi cette aventure qu'elle tente. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai écouté hier une création, hein, c'est une pièce pour alto jouée par Élodie Godet. Eh bien, c'est cet univers à la fois encore mélodique, hein, mais en même temps déjà dans une narration qui casse, on va dire, l'objet mélodique pour l'amener dans d'autres ramifications.
Pour prolonger ce que vient de dire Vincent, est-ce que vous élargissez vos horizons musicaux de façon stratégique, enfin délibérée,
intentionnelle ou non?
Bueno, sobre mi imaginario musical, entiendo que va un poco la pregunta. Creo que uno de los pilares que tengo a la hora de componer es siempre
quand je commence à composer, je pars d'abord d'une idée conceptuelle.
Por ejemplo, la pieza que estrené anoche estaba inspirada
sobre exemple,
una figura mitológica peruana.
Par exemple, la pièce qui a été créée hier s'inspire d'une figure mythologique.
Y animal lunar.
Animal lunaire. Voilà.
Y todo el trabajo posterior melódico de
elección. Tout mon travail mélodique, harmonique, du discours musical part de cette idée de cette volonté de représenter cet animal mythologique.
L'orientation dans les manières de faire musique aujourd'hui, vous la pensez comment? On dit parfois que vous pouvez emprunter aussi bien à la musique spectrale qu'à la musique saturationniste. Là aussi, c'est quelque chose qui est porté par le concept initial, ou c'est plus intuitif que ça?
Del concepto de la pieza ou d'autres cosas más largas?
Creo que actualmente, al menos lo que puedo ver en mi generación, los jóvenes están más abiertos
à tomar. Regarde les compositeurs de ma génération, nous sommes beaucoup plus ouverts à prendre dans les influences les plus diverses, les écoles et les influences les plus diverses.
Y que el que se puede usar espectralismo u otras técnicas va a depender d'autres courants,
cela procède d'abord de ce que l'on veut. Ce que l'on imagine musicalement, de ce que l'on veut écrire.
Jean-Jacques Gaudron à la clarinette et Jacques Combi au piano dans un extrait de Crimson de Pia Alvarado. quel était le concept alors à l'origine de cette pièce?
Quel était le concept à l'origine de cette pièce?
Carmesí está inspirada en la historia del ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde.
Cela s'inspire d'un conte d'Oscar Wilde.
Del cuento El ruiseñor y la rosa.
Dans le cas du monsieur de la rosa.
Vincent Trollet, c'est l'ensemble Regard qui donne par exemple cette pièce, qui est aussi très active dans le festival Sonomundo qui nous réunit aujourd'hui. C'est un ensemble qui est plus vieux que votre intérêt pour la musique péruvienne.
Oui, on l'a créé on l'a fondé en 2013. Et en 2013, donc au départ, c'était des compositeurs et c'était plutôt autour de discussions, d'échanger, de pouvoir aussi, on était encore étudiants pour certains et ça nous permettait plutôt que de dire oui, on n'aime pas, on râle pas, faisons quelque chose, créons un ensemble et essayons de pouvoir passer de notre vision et de nos désirs et de nos envies à quelque chose de beaucoup plus concret. C'est-à-dire, voilà, quelle musique, avec quel musicien, qu'est-ce qu'on voudrait faire entendre? C'est quoi notre musique? C'est quoi la musique d'aujourd'hui, de création? Qu'est-ce qui nous attire? Voilà. Et ça c'est une aventure, vraiment. Au départ, une sorte de convergence qui a pris, d'où le terme regard avec un S, j'insiste, et qui, au fil et à mesure, a pris forme avec des musiciens interprètes qui nous sont restés fidèles et qu'on va entendre lors du festival Sonomundo pour plusieurs programmes.
Vous disiez que Pia était très engagé dans la diffusion de la musique. Pia, vous êtes aussi engagé dans la production des créatrices, notamment péruviennes. Vous participez à un groupe de défense des compositrices.
La défense de las compositores peruanas actuales.
Sí, yo soy parte de un colectivo llamado Retama.
Je fais partie d'un collectif Retama qui a pour charge de défendre le travail et de mettre en avant le travail des compositrices péruviennes au Pérou.
Y trabajamos mucho con la interdisciplinaridad, es decir, no solo a través de la música, sino relacionándonos con otras disciplinas artísticas como la danza, la pintura, el cine.
Mettons un accent particulier sur l'interdisciplinarité. Non seulement la musique, mais aussi la danse, le cinéma.
Y de esa manera generar una red entre las mujeres artistas.
Et de cette manière, établir une sorte de réseau entre les femmes artistes du Pérou.
Est-ce que cette cause est plus facile à l'échelle internationale ou à l'échelle locale?
Internationale ou nationale?
Bueno. En nuestros dos años de fundación del colectivo hemos empezado trabajando primero a nivel nacional, pero actualmente.
Alors, nous avons d'abord travaillé à niveau national pendant les deux premières années d'existence du collectif, mais grâce à différents fonds, nous nous ouvrons à une dimension plus internationale.
Por ejemplo, este año hemos estado trabajando con un ensamble alemán. Y pudimos presentar un proyecto en un festival.
Par exemple,
allá
nous travaillons avec un ensemble allemand dans le cadre d'un festival Héroïne du son, Héroïne de la musique.
Est-ce que vous seriez pour la disparition des mentions de genre et de nationalité sur les programmes de concerts?
La mention des nacionalidades et des géneros en las programaciones de conciertos.
Creo que lo ideal es que en algún momento se puedan suprimir estas etiquetas.
Dans un premier temps, l'idéal ce serait de supprimer ces étiquettes.
Pero como actualmente estamos hablando igual de minorías, creo que sí es importante mencionarlas para asegurar
temps,
que haya
comme on parle
de
minorité,
de
il est important de les mentionner pour mettre en valeur aussi leur existence.
Et pour terminer, eh bien, c'est Gilles Charlassier qui vous adresse, à vous quatre, une dernière question.
Alors, Fernando, Pia, Juan et Vincent, nous avons parlé pendant cette heure donc, dans le rapport entre France et Pérou, nous avons parlé de fantasmes, nous avons parlé aussi d'exotisme, de colonialisme, et le rôle de la nouvelle génération dans, dans ce renouvellement du rapport entre nos deux mondes, sonore, géographique. Sonomundo serait le travail de la nouvelle génération et d'une manière plus générale et plus spécifique Sonomundo, sont-ils un moyen de réinventer, de recoloniser l'imaginaire musical du Pérou vers la France, de la France vers le Pérou?
Non, je pense que Sonomundo, je pense que Sonomundo, il faut évacuer tout de suite le mot colo ou néocolonisation. Nous sommes plutôt dans un partage. Nous ne sommes pas dans une imposition. C'est plutôt le partage qui opère dans notre vision d'équipe. Et qui dit partage, veut dire égalité de conditions. Nous avons des compositeurs péruviens qui viennent ici, pas en qualité de colonisés, sinon en qualité d'artistes qui vont être joués au même titre que des compositeurs français. Et d'un autre côté, nous souhaitons aussi pouvoir inviter des compositeurs français à se déplacer au Pérou, et pas dans le sens des néocolonisateurs, sinon dans le sens on est à l'accueil, et développer une confrérie internationale d'artistes, pas forcément hexagonale.
Donc une réinvention des rapports entre les deux mondes.
C'est un seul monde, à mon avis. Moi, je travaille sur l'hybridation. C'est des formations.
Pour moi, il n'y a absolument pas de fantasme, mais il y a des personnes. Je veux dire, c'est vraiment concret. C'est-à-dire que ces personnes-là, on partage cet art qui est la musique, on partage ce désir de composer, de créer. Et Sonomundo, c'est un moyen de pouvoir diffuser ces musiques-là, mais aussi au public de découvrir. On a un rôle de médiateur. Donc je ne vois pas du tout que ça comme quelque chose de fantasmé, d'idéal. Au contraire, de quelque chose de très concret, de très opérationnel, et vraiment de vouloir, cet engagement, à faire que le public qui vient puisse avoir ses accroches.
Donc une réinvention des rapports entre nos deux mondes.
Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de réinvention. Ces deux mondes ont toujours existé. Après que nos rapports soient conflictuels, empathiques, ça fait partie de l'histoire.
Peut-être une réponse de Fernando.
Exotismo, colonialismo cultural sont palabras que parten del desconocimiento mutuo, ¿no?
L'exotisme comme le colonialisme sont des mots qui appartiennent à la méconnaissance des mondes de l'un et de l'autre.
Pero después de más de un siglo de aprendizaje de nosotros conocer la cultura francesa y los
dans l'apprentissage de notre connaissance de notre apprivoisement de la culture française à la culture péruvienne, la culture péruvienne par rapport à la culture française, il y a quelque chose qui dépasse ce rapport-là, ce rapport de méconnaissance.
Muchos de los compositores peruanos que van a ser incluidos en este festival,
la plupart
a través de su música,
les compositeurs péruviens présents ici le disent.
Y de manera que Sonomundo es un espacio en el que creo se puede fortalecer estos vínculos.
Sonomundo est un moyen d'établir des liens, des nœuds entre les deux, entre nos deux univers.
Merci beaucoup merci à vous quatre. Merci Gilles pour les traductions et la question finale, et à très